Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah bah ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h10, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Merci d'être avec nous, un bon dimanche à vous toutes et à vous tous. Et bienvenue si vous venez de vous réveiller, de nous rejoindre. Sachez que tout à l'heure, à partir de 8h, c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoindra pour 2h dédiées à l'automobile avec toutes vos questions auto, bien entendu. Et en deuxième partie, on s'intéressera à l'automobile et Noël avec des idées cadeaux concernant Noël et l'auto. Et puis surtout, est-ce que c'est le bon moment en cette fin d'année de s'offrir un véhicule? On dit souvent qu'il y a des rabais à impressionnant parce que les constructeurs sont là aussi en cette période de fin d'année pour déstocker des véhicules. Eh bien, on en parlera tout à l'heure. Voilà, est-ce que la période des fêtes de fin d'année est un bon moment pour s'offrir une nouvelle voiture? On verra ça donc à partir de 9h sur RMC. Mais dans les médias, on poursuit notre rendez-vous animaux avec Laetitia Barlerin. Et pour cette deuxième heure, Laetitia, on va évoquer tout à l'heure le gagnant de la France, un incroyable talent. Enfin, les gagnants, puisqu'il y a un chien et sa maîtresse.
Mais oui, première fois qu'un chien, quand même, arrive en finale et gagne ce concours.
Voilà, Juliette sera avec nous tout à l'heure. Nous ferons un point aussi sur la grippe aviaire. C'est vrai que cette semaine, les médias se sont encore emparés de ce sujet.
Ça commence à être la psychose. On va vous rassurer.
Voilà. On va être un petit peu rassurant. Et pour débuter, la question que l'on peut se poser durant ces périodes de fête, est-ce qu'on peut offrir un animal comme cadeau, comme pour offrir une console de jeu ou un smartphone?
Non, ça c'est une question posée comme ça, je vous réponds non.
Non,
c'est quoi votre prochaine question? Bon, en tout cas, on a avec nous le docteur Jasmine Chevalier, qui est vétérinaire comportementaliste et auteur d'un livre dont on en a parlé dans cette émission qui s'appelle « Mon chat a un mauvais caractère ». Moi j'adore ce titre déjà, aux éditions Erol. Jasmine, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous en studio.
Merci à vous.
Alors, c'est vrai que beaucoup sont tentés, parce que les enfants, quand ils font leur liste de Noël, il y a toujours un animal sur la liste de Noël. Alors, est-ce que il faut offrir un chat? Est-ce qu'on peut offrir un chat ou un chien à un enfant pour Noël? Est-ce que c'est une bonne idée?
Alors, je pense que les premières questions à se poser sont déjà une démarche familiale de se demander si on a vraiment envie d'un animal ou pas.
C'est l'animal de la famille et non pas de l'enfant.
Ça doit être l'animal de la famille. Les enfants, leur travail, c'est d'apprendre à être autonomes et responsables d'eux-mêmes. Donc, être responsable d'un animal, pour eux, c'est compliqué. Et c'est toujours l'adulte qui restera le premier responsable de cet animal. Donc, on peut pas offrir un animal à ses enfants et se dire que ce sera uniquement leur tâche à eux de s'en occuper.
C'est important parce qu'on voit quand même... Moi, je vois des adultes qui disent « Oh, mais c'est le chien ou c'est le chat de mon enfant ?» Ça me choque un peu, moi.
Oui, oui, c'est vrai.
Oui, je pense que... Alors, en clientèle, moi, je suis vétérinaire généraliste et j'ai un nombre incroyable de gens qui, de 40, 50 ou 60 ans, qui m'amènent l'animal de leurs enfants. Les enfants ont grandi, sont partis faire leurs études, ils sont mariés ou leur femme est allergique. Et donc, je pense que cette responsabilité de l'adulte vis-à-vis de l'animal de la famille dure... très longtemps.
Très très long. Et est-ce que Noël est une bonne date pour offrir?
Alors, Noël, admettons qu'on veuille offrir un chien. Enfin, moi, j'ai eu droit aussi avec mon fils qui voulait un bébé berger australien pour Noël. Noël, c'est une date un peu compliquée parce que on sait que un chien, par exemple, doit arriver dans sa famille à peu près vers 2 mois. Donc, si on veut l'offrir à Noël, il va falloir trouver un chiot qui soit né vers le 1er novembre. Et ça, c'est pas forcément facile.
Oui, ça réduit.
Donc,
déjà.
Voilà. On sait que la période idéale pour qu'un chien s'adapte à sa famille, c'est entre 2 et 4 mois d'âge. Donc si on trouve pas un chiot qui soit né fin octobre, on va prendre un chiot un peu plus vieux, on va demander à l'éleveur éventuellement de le garder, et finalement on va priver ce chien de ces semaines qui sont cruciales pour qu'il puisse s'intégrer à sa famille. Donc on a un problème déjà dans ce cadre-là. Et le deuxième écueil, c'est que si vous voulez faire un beau cadeau au pied du sapin, vous pourrez pas le 24 décembre aller le chercher chez l'éleveur, vous aurez autre chose à faire. Donc vous allez aller chercher le chiot vers le 20 décembre, et puis le confier à un ami ou à une connaissance qui puisse le garder pendant 4 jours. Et ce chiot, on sait que quand il sort de son élevage, il va d'abord reporter son attachement sur la première personne qui s'en occupe.
Et ça sera l'ami.
Et ce sera l'ami. Et vous allez créer un deuxième traumatisme, entre guillemets, au moment où vous allez le ramener à la maison. Vous perturbez donc considérablement son attachement à sa famille. Donc je pense que la date de Noël est une date un peu périlleuse.
Ouais. Voire périmée.
Ouais. Voire périmée. il y a beaucoup. Alors, souvent, les associations de protection animale disent cadeau de Noël fait l'abandon de l'été. Bon, c'est vrai que bon, le chien qui est tout mignon à Noël, et ben grandit. Après, on s'aperçoit que ben voilà, c'est toute une responsabilité et qui en plus il faut trouver quelqu'un pour s'en occuper l'été. Mais est-ce que les abandons sont aussi parfois dû au fait que l'animal ne correspond pas à nos attentes? Est-ce qu'on n'idéalise pas l'animal? Alors l'enfant l'idéalise, c'est sûr, mais nous adultes, est-ce qu'on n'idéalise pas, pardon, trop l'animal?
Alors, je pense que c'est un processus normal d'idéaliser cette future acquisition. On idéalise son prince charmant, on idéalise les enfants
c'est
parfaits. Voilà. Donc, ça fait sans doute partie de la démarche de décider de prendre un animal, c'est de s'imaginer avec Scooby-Doo, Volt ou un chat qui soit voilà, une future star du web parce qu'il fait plein de trucs et qu'on peut le mettre sur YouTube. Mais il faut pas idéaliser le niveau de réussite qu'on va avoir avec son animal. C'est la première chose. Il faut aussi faire attention à ne pas idéaliser l'animal qu'on a eu avant, c'est-à-dire avoir vraiment fait une séparation par rapport à son précédent chat ou chien qu'on a perdu pour réussir à s'attacher à une nouvelle personnalité. Et il faut pas idéaliser non plus le niveau d'investissement. Un animal, même si c'est un petit rongeur, ça demande du temps et de l'énergie.
Alors, on parle de cadeaux à offrir aux enfants, mais aussi, moi j'ai des personnes qui me disent qu'ils veulent offrir un cadeau à un adulte. Alors justement, on a une question mail de Christine qui dit « Mes parents ont 84 ans, ils habitent à la campagne et nous voudrions leur offrir pour Noël un bon gardien efficace et rassurant. Mes parents ont toujours eu des chiens, ils ont eu un setter anglais. Quelle race me conseillez-vous ? Alors, est-ce qu'il faut offrir un chien ?
Je pense que les deux mots efficace et rassurant dans la même phrase, ça me perturbe un peu, puisque un bon chien de garde, c'est un chien qui fait des agressions territoriales, donc il repousse à l'étranger.
Donc il y a,
voilà.
Tout.
Donc,
ouais,
y a agression dans l'expression. Et donc, je pense qu'il faut faire déjà la différence entre un chien de garde, éventuellement dressé pour faire de la garde, ou qui a ce tempérament-là, et un simple chien d'alerte qui me paraît suffisant dans la plupart des cas, et pour avoir un chien d'alerte qui aboie quand les gens s'approchent, il n'y a pas besoin d'avoir une race qui soit grande, de grand format, ni compliquée à dresser. Parce que les gens de 85 ans ne sont pas forcément en mesure, ne serait-ce que physiquement, d'éduquer un très grand chien ou
de
contenir son énergie. Parce
ouais,
que c'est vrai que. Voilà.
Donc je pense qu'il faut plutôt avoir une notion de chien d'alerte qui aboie quand il entend du bruit. Et un chien de compagnie qui soit aussi un chien de garde, ce n'est pas forcément facile d'avoir les deux, donc il faut faire un choix.
Alors, Laetitia, on revient dans un instant avec notre invitée, Jasmine. On va, dans un instant, vous offrir des cadeaux. Laetitia, est-ce que vous rêvez d'avoir un drone ?
C'est pas forcément dans ma liste de Noël, mais pourquoi pas ?
Bah, écoutez, il y en a un à gagner dans un instant.
Ah,
j'essaie de vous convaincre à quoi ça peut servir.
Bon, ça sera mais comme je sais que je peux pas jouer, donc c'est chou blanc avec moi.
Ce sera notre Noël RMC dans un instant, donc je vais vous offrir un très joli cadeau par SMS. Vous restez là et on poursuit notre rendez-vous animaux tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h20, c'est RMC, le retour du week-end des experts, les animaux. Et avant de retrouver Laetitia Barlerin et nos invités, on joue maintenant sur RMC.
Le grand Noël RMC, spécial week-end avec cdiscount.com.
Il y a des cadeaux partout. Tout au long de la semaine sur RMC, nous vous offrons des super cadeaux pour fêter Noël. Et c'est aussi le cas dans ce week-end des experts, le samedi et le dimanche. Et ce matin, je vous offre un drone PNJ avec caméra intégrée. Donc vous le pilotez, ce drone, avec votre smartphone ou une petite télécommande et vous avez une petite caméra pour filmer votre environnement, c'est très sympa. Si vous voulez tenter votre chance pour remporter ce drone, eh bien vous vous inscrivez tout de suite Ça marche exclusivement par SMS. Vous nous envoyez les trois lettres de votre radio RMC au 73216. Vous tapez RMC au 73216 par SMS sur votre mobile et vous participerez au tirage au sort. Faites vite, l'un d'entre vous va être tiré au sort. Inscrivez-vous très rapidement, je vous donnerai le nom du gagnant avant 8h. Bonne chance à vous toutes et à vous tous. Laetitia Barlerin qui est avec nous, vous le savez, pour joindre notre vétérinaire, le 3216 ou bien animaux@rmc.fr. Laetitia, on a une Charlotte avec nous au 3216 qui nous a appelé.
Eh oui,
parce et on l'accueille tout de suite.
On l'accueille tout de suite.
Bonjour Anne-Charlotte.
Bonjour.
Bonjour toute l'équipe.
Bonjour. Alors vous voulez adopter un chien en refuge, c'est ça?
Oui.
Alors on vous écoute, racontez-nous.
Donc on a une grande maison et on voudrait un gardien. Et cette fois-ci, je voudrais un adulte. Et j'aurais aimé avoir une race qui peut... Vous avez des races qui, dès qu'ils sont un peu... S'ils se sentent bien chez eux, sont tout de suite propriétaires et ils arrivent tout de suite à faire leur délimitation. Et je me disais, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un chien de refuge, sachant tout ce qu'il a vécu ou... Et je voudrais bien en sauver un, mais qui ait un caractère un peu fort et qui sait quand il est chez lui.
Ça, c'est la grande question qu'on se pose. C'est vrai, quand on achète on adopte.
Laetitia.
Quoique, bon, on donne quand même quelque chose quand on adopte. C'est pas gratuit.
C'est pas gratuit.
On se dit toujours, ce chien a vécu beaucoup, beaucoup de choses. Comment ça va se passer? On a cette petite peur aussi. On fait une bonne action, mais on connaît pas le passif du chien. Jasmine.
Alors déjà la question sur la race montre un bon exemple de l'idéalisation, c'est-à-dire que une race va pas être une garantie de caractère. Donc surtout sur des chiens qui sont en refuge et qui sont peut-être en refuge justement parce qu'ils ne correspondaient pas à l'idée qu'on avait de cette race-là. Donc je pense que le choisir en fonction de la race, c'est pas une très bonne idée. Ensuite, prendre un chien pour une mission aussi précise que de la garde me paraît aussi un peu dangereux. Et j'ai l'habitude de dire que entre de la compagnie et de la garde, il faudra peut-être, en prenant un chien en refuge, faire un choix entre les deux. Donc attention sur ces chiens dont on connaît pas le passé. Je pense que les refuges s'interdisent de placer des chiens qui ont une agressivité visible. Donc je suis pas sûre qu'en boxe on pourra choisir un chien de garde.
Mais alors on peut prendre un chien qui de toute façon instinctivement dès qu'il entendra un bruit suspect va aboyer et sera un chien d'alerte et qui sera un chien de compagnie pour Anne-Charlotte.
Oui, tout à fait. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut cibler. Donc après, malheureusement...
Peut-être un gros chien plutôt qu'un petit chien.
Voilà, un chien après. Impressionnant.
En plus, quand on
passe dans le refuge, on voit quel chien aboie ou non. La vie en refuge, les chiens aboient beaucoup en boxe, donc ils peuvent garder un peu ce tempérament. Mais essayer de chercher un chien de garde, je pense que c'est pas une très bonne idée.
Alors, justement, quand on arrive en refuge, il y a des dizaines de chiens, des dizaines de chats.
Qui sont tous, en plus.
On a envie de tous les adopter.
Tous les prendre, c'est ça le problème.
Ou aucun. On est perdu, hein. C'est pas comme dans un magasin de jouets, parce que c'est un peu ça. On est perdu, on sait pas comment faire son choix. Est-ce qu'il faut laisser parler son cœur, un regard, quelque chose?
Je pense que c'est, alors, une fois qu'on a fixé le format, parce que ça, c'est quand même important de parvenir avec l'énorme Bouvier Bernois quand on pensait prendre un petit chien pour son studio. Je pense qu'après, le seul critère qu'on a effectivement, c'est son ressenti, et je pense que c'est très important parce que c'est ce qui va guider la relation après, cette première impression.
Alors, quels sont les... Alors, on prend un chien en refuge, et ça, je vous incite à le faire si vous voulez un animal pour Noël. Comment se passent les premiers jours? Quels conseils donner, surtout si on a des enfants à la maison?
Alors, les premiers jours, il faut faire attention à quand on est l'adulte, encore une fois, essayer de garder la main. C'est-à-dire qu'on peut pas, alors surtout si on prend un chien en refuge, donc on connaît pas le passé, ce qui est souvent le cas, on connaît pas son vécu et son niveau de socialisation aux enfants. L'habitude qu'il a eu de côtoyer des enfants et d'apprendre à communiquer avec eux. Les enfants sont pas exactement la même façon de se tenir que les adultes. Donc quand on est l'adulte, on doit garder la main. Et ces chiens qui sortent de refuge, ils ont perdu le cadre familial. Il faut leur apprendre tout comme un chiot, reprendre la propreté, leur montrer où est leur panier, reprendre les règles de vie de base et respecter un coin d'isolement où ils peuvent se reposer tranquillement sans les enfants. C'est vraiment important que les enfants qui sont ravis évidemment d'avoir un animal ne harcèlent pas l'animal. C'est quand même une grosse brisure le moment de l'adoption. C'est une grande joie pour le chien, mais c'est aussi un moment un peu angoissant, donc il doit
surtout
savoir s'il a sa sécurité.
Si à Noël, par exemple, on a toute la famille à la maison et que le chien arrive dans cette maison avec la famille, tout le monde est autour de lui, il veut le toucher, ça peut être un chien ou un chat d'ailleurs.
Ouais.
Ça peut être
Je pense que définitivement le cadeau de Noël sous le sapin, je crois qu'il y a une publicité en ce moment qui illustre très bien l'idée avec le petit cochon qui grandit, et voilà, je suis pas du tout fan de cette idée-là. Ouais. Je pense que l'adoption du chien, c'est dans le cadre familial et prendre ses marques tranquillement.
Alors, avec un chat, comment ça se passe? Alors, on prend un chat adulte en refuge. Quelles sont les règles, là aussi?
Alors, le chat, c'est un animal qui a besoin d'investir son environnement, peut-être même avant d'investir la relation. Donc, de la même façon quand on a des enfants, savoir que c'est le chat qui va régler la distance avec ses nouveaux propriétaires. Il doit d'abord pouvoir explorer la maison librement, avoir un coin d'isolement, c'est encore plus fondamental pour un chat. Et surtout, ne pas le laisser sortir. Parce que si la porte et la fenêtre est entr'ouverte dès le premier jour, il pourrait, dans la panique du nouvel endroit, fuir et pas se repérer pour revenir. Là, c'est un peu le drame, surtout autour de Noël. Et puis le laisser venir progressivement.
Alors, beaucoup de personnes se demandent aussi comment les chats et les chiens vivent l'abandon, l'acte d'abandon, le fait d'être abandonné. Est-ce que ça laisse des séquelles chez eux, psychologiques, on va dire? Est-ce qu'ils s'en souviennent? Qu'est-ce que ça peut leur donner comme problème, hein, quelque part?
Alors, l'acte d'abandon, c'est une rupture dans l'attachement que ces chiens avaient pour leur famille. Certains chiens n'étaient pas forcément très heureux chez eux et la relation n'était pas très bonne, et c'est pour ça qu'ils sont en refuge. Néanmoins, l'arrivée dans un refuge, pour ceux qui les ont déjà visités, c'est quand même une situation stressante pour un chien. Par exemple, il y a beaucoup d'aboiements, beaucoup de congénères, et surtout il y a moins de propriétaires référents. Ensuite, il n'y a pas forcément de séquelles, et pour la majorité des chiens, il y a une reprise d'un niveau d'équilibre émotionnel stable dès qu'un nouveau lien d'attachement se crée. Et ceux qui gardent le plus de séquelles sont ceux qui avaient, entre guillemets, déjà des séquelles avant, c'est-à-dire qui ont été abandonnés pour des troubles du comportement non résolus.
Jacine, merci beaucoup pour
merci
toutes ces
beaucoup.
Précisions.
Merci à vous. Merci. Alors, je répète que vous êtes vétérinaire et auteur d'un livre qui s'appelle Mon chat a mauvais caractère aux éditions Erol.
Et donc, on ne fait pas n'importe quoi à l'approche des fêtes de fin d'année, hein?
Non, bien sûr.
On l'a bien compris. Laetitia, on revient après la météo, les infos de 7h30. On va poursuivre, on va parler de la grippe aviaire qui refait surface visiblement. Et puis, on évoquera le gagnant, la gagnante, les gagnants de la France, un incroyable talent. À tout de suite. Laetitia Barlerin, il est temps de retrouver une petite question flash maintenant. En moins de 2 minutes, vous vous engagez à répondre à la question de Gérard. Mon chat me ramène des mulots et souris vivantes dans la maison pour que je joue avec lui et que je lui tue.
Hein?
Et ensuite, il les mange. C'est sympa comme question,
qui les mange, Gérard ou son chat?
Je pense que c'est plutôt le chat. Auriez-vous une solution? Car je n'ai plus les réflexes d'antan.
Une solution pour... Alors, si je comprends bien, il me demande une solution pour tuer les animaux?
Non, je pense qu'il aimerait changer le comportement de son chat et qu'il évite de lui ramener tout le temps des souris et des mulots.
Alors, c'est pas un cadeau. Hein. Vous savez que les chats ramènent leur proie à la maison, tout simplement parce que c'est instinctif. Dans la nature, ils ramènent leur proie dans leur tanière, c'est-à-dire dans un endroit calme où ils peuvent... tranquillement déguster leur tableau de chasse. Alors c'est sûr que le chat domestique ramène ça à la maison parce que c'est sa tanière, et puis arrivé à la maison il se dit je vais un peu jouer avec parce que de toute façon j'ai pas très faim, il y a ma gamelle de croquettes à côté,
c'est ça, tout est là.
Et puis alors le chat de Gérard, il voit que Gérard joue avec, parce que pour lui c'est un jeu, hein. Le chat, il se dit tiens, je vais lui donner, il va jouer avec, bon il me les tue, bon je vais les manger. Donc il faut changer tout ça, bien entendu. Alors si il vous ramène des souris ou des mulots vivantes, vous les sauvez. Vous les remettez dehors.
C'est ça, on les prend et on les jette loin comme ça.
Oui, enfin, vous les remettez dehors. Enfin, quoi. Enfin moi, je suis contre l'assassinat des mulots et des souris. Et puis, vous faites porter à votre chat une petite clochette. Ça peut marcher à son collier parce que la souris ou le mulot peut éventuellement entendre le chat approcher. Pourquoi pas? Il y a aussi les Anglais qui ont inventé un espèce de chouchou. Vous savez qu'on met normalement dans les cheveux pour la queue de cheval. Ça, c'est un chouchou qu'on met tout autour du cou du chat pour qu'on le voit de loin, n'est-ce pas? Avec plein de couleurs.
Ça peut marcher aussi.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est RMC 7h35, le week-end des experts animaux, la suite. Laetitia Barlerin m'accompagne, vous le savez, jusqu'à 8h. Puis après, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra. Laetitia, tout à l'heure, nous recevrons Juliette et son chien, Charlie. Alors bon, Charlie, ça sera compliqué de l'interviewer, mais Juliette, ça sera plus facile. Voilà.
Moi, je parle le chien.
Et Juliette et Charlie, ce sont les gagnants de la France, un incroyable talent.
Et oui, on les avait reçus il y a 2 semaines pour la demi-finale. Et je pense qu'ils vous ont écouté et que vous nous avez écouté. Vous avez voté pour eux parce que c'est le vote du public qui les a nommés les grands gagnants de la France, un incroyable talent. Et c'était serré quand même.
Voilà, donc on retrouvera Juliette tout à l'heure avec nous. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on va revenir sur cette épidémie de grippe aviaire. Où en est-on? Y a-t-il véritablement un risque? C'est vrai que les médias se sont fait l'écho. C'est quelque chose de cyclique en fait, cette grippe aviaire. Faut-il vraiment s'en inquiéter?
On va voir. Et nous sommes avec une spécialiste de la pathologie aviaire, qui est le professeur Jeanne Brugère-Picoux. Bonjour Jeanne. Bonjour.
Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Alors la grippe aviaire. Alors je sais qu'on vous avait invité il y a 7 ans, puisque c'était en 2006, plusieurs fois, pour nous parler de la grippe aviaire, parce que tout le monde en parlait, c'était la psychose. Elle viendrait apparaître en France dans des élevages de volailles. Il y a désormais 13 foyers de grippe aviaire, ou plutôt influenza aviaire. C'est plus... Parce que grippe, ça fait peur, en fin de compte. Et d'ailleurs, les personnes confondent la grippe aviaire avec la grippe A, cette fameuse grippe A, qui a aussi... il y a eu une psychose. Il faut vraiment faire la différence, là.
Ah, tout à fait, parce qu'il faut pas oublier qu'en 2006, on annonçait 500 000 morts grippe aviaire. Donc, les gens confondaient, en fait, ce risque de pandémie de grippe humaine avec cette grippe aviaire, parce que les médecins...
qui veut dire les oiseaux.
Oui, les médecins n'y connaissaient rien, en fait. Et donc, on laissait parler des médecins, mais il faut laisser parler des vétérinaires quand c'est une maladie vétérinaire. Et là, c'est très différent ce qui se passe. Parce que en 2006, c'était des oiseaux sauvages qui étaient touchés, et on a eu qu'un élevage de dindons. Premier et seul cas en France. Et là, ce sont des élevages, ce sont pas des oiseaux sauvages. Donc, c'est tout à fait différent. C'est la première fois qu'on a des épisodes aussi de foyers spécifiquement dans des élevages, et là c'est un problème uniquement vétérinaire et c'est dramatique pour la filière avicole.
Alors quels sont les animaux sensibles à cette influenza aviaire?
Alors ce sont les volailles, principalement les poules, les dindes, les pintades, mais les canards et les oies peuvent être sensibles. Mais par exemple on a abattu un élevage d'oies dans Dordogne qui a présenté très peu de symptômes, mais on avait trouvé le virus, donc les mesures de biosécurité se sont appliquées.
Et alors question très souvent posé par nos auditeurs, est-ce que mon chat risque de contracter la grippe aviaire s'il chasse les oiseaux? Alors je sais que en 2006, on avait isolé le virus à l'époque de la grippe aviaire chez un chat. Alors sans forcément, on l'avait isolé, ça veut rien dire aussi, ça veut pas dire que le chat en meurt.
Oui, il y a eu des cas en Thaïlande et surtout il y a eu l'île de Rügen en Allemagne où il y a eu des chats effectivement qui ont été touchés, mais très peu, et puis une expérience montrant la sensibilité du chat, mais c'est tout ce qu'il y avait eu. Et de toute façon, n'oubliez pas, les oiseaux sauvages ne sont pas touchés par cette épisode aussi d'influenza aviaire. Ce sont surtout des élevages, donc là
il
y a...
Mais il vient d'où ce virus justement? Est-ce qu'on sait aujourd'hui quelles
l'origine.
Sont voilà, l'origine?
Oui.
Alors, c'est un virus qui a circulé vraisemblablement. Puis, vous savez, ce sont des virus de sous-type H5 ou H7 qui peuvent être responsables de pathogénicité, c'est-à-dire d'être responsables. Moi, je dis plutôt peste aviaire, mais c'est un terme qui montre que c'est une maladie qui peut entraîner 100% de mortalité chez les volailles. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce virus, il a dû muter, il y a des réassortiments. Et ça, ce n'est pas uniquement en France qu'on voit ça. Il y a eu des problèmes énormes aux États-Unis puisqu'ils envisagent de vacciner tellement ils n'arrivaient pas à éradiquer, et c'était un virus H5N1. Aucun rapport avec la souche asiatique d'ailleurs. Hein.
Donc ça veut dire qu'en France, il y a eu un virus qui a muté et qui...
Plusieurs, on en a trouvé trois. On a du H5N1, du H5N2 et du H5N9 même maintenant. Donc si vous voulez, c'est très compliqué, c'est complexe, parce que plus on cherche maintenant avec la surveillance renforcée, on va trouver. Et là, on ne sait pas ce qu'on va trouver puisque c'est nouveau. On n'avait jamais eu ça.
Alors, pour il y a beaucoup d'auditeurs qui ont un petit poulailler. Quel est le risque pour eux?
Le risque est assez limité puisqu'on sait visiblement que ce ne sont pas les oiseaux sauvages.
Ça peut pas être transmis par un oiseau sauvage qui, par exemple, vient manger les graines de la poule dans
A priori, non. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas depuis quand ces virus circulent, en particulier chez les oies ou les canards qui peuvent ne pas présenter de symptômes. Donc, en fait, on ne sait pas depuis combien de temps on a ce virus hautement pathogène. Et le problème, c'est qu'il y a trois virus. Donc, si vous voulez, on ne sait pas comment ça va évoluer. Ça peut s'arrêter parce que les mesures de biosécurité sont appliquées et qu'on espère qu'on est limité finalement en zone géographique touchée. Sinon, on risque d'avoir les problèmes qu'on voit partout autrement qu'en France. C'est-à-dire que ça éclate partout, la peste aviaire. On en a partout.
Quels sont les symptômes justement pour ceux qui ont des petits élevages? Quels sont les premiers symptômes?
Alors, le premier cas d'ailleurs, c'était un élevage de basse-cour. C'était 32 volailles.
C'est
une mortalité très rapide. C'est une septicémie en fait. Donc en fait, la mortalité rapide en quelques jours de la majorité du cheptel, c'est évident qu'on pense tout de suite à la peste aviaire. C'est le terme qu'on utilisait officiellement, la peste aviaire. Mais les filières avicoles n'aiment pas qu'on l'utilise. Alors, il vaut mieux utiliser le terme influenza aviaire hautement pathogène, mais surtout pas grippe aviaire, qui pourrait faire penser qu'il y a un risque pour l'homme.
Donc il n'y a pas de risque pour l'homme?
Non seulement il n'y a pas de risque pour l'homme, parce que les seuls cas qu'on connaisse sont exceptionnels, avec la souche asiatique, et ce n'est pas la souche asiatique.
Oui, mais c'était des exceptions, enfin c'est des gens qui vivaient dans le poulailler, quoi.
En cohabitation étroite, dans des conditions d'hygiène médiocres. Et d'ailleurs, les derniers cas, c'est surtout en Égypte. En Égypte, il y a eu énormément de cas humains, mais n'oublions pas que sur 12 ans, c'est 450 morts, c'est pas une pandémie, c'est vraiment 12 ans, c'est pas énorme, 450 morts, surtout quand on sait que ce sont des pays qui avaient des problèmes d'hygiène très médiocres.
Est-ce que les oiseaux de volière, les des perruches, canaries, même des pigeons, d'abord sensibles à cette maladie,
alors la sensibilité varie beaucoup selon les souches, donc c'est très difficile de répondre pour cette question. Par contre, le risque de contamination, on peut répondre que non, puisque ce sont des élevages qui sont contaminés. Ces élevages sont souvent fermés et on va pas ramener les canaries ou les perruches dans l'élevage, donc il y a pas de risque.
Oui, mais nous on peut rentrer dans l'élevage et en sortir.
Vous savez, on ne rentre pas si facilement que ça dans un élevage commercial. Les mesures de biosécurité déjà normales font que vous ne rentrez pas facilement dans un élevage, parce qu'on fait très attention, il y a toujours des pédiluves, etc. Vous savez, on ne visite pas les élevages de volailles comme ça.
Et puis, ce n'est pas un site touristique très recherché, accessoirement.
C'est les fêtes bientôt, donc je sais qu'il y en a qui vont manger du foie gras, sauf moi. Parce que je suis contre, et je sais que les Japonais
même
ne
pas
veulent
pas une petite fichette,
rien
du
tout.
Je suis
contre la souffrance animale, et pour moi le foie gras c'est de la souffrance animale. Mais c'est un autre débat. Je sais que les Japonais ont interdit l'importation de foie gras venant de France. Est-ce qu'il y a un risque?
Alors non, il n'y a pas de risque. Mais je voudrais quand même dire que pour le foie gras, c'est exactement ce qui se passe quand un oiseau qui va voyager.
Non mais ça c'est des arguments pro foie gras et je suis vraiment contre. Moi j'ai vu des animaux gavés.
Ah non mais c'est réversible. C'est réversible.
Eh ben justement ils vont jusqu'à la mort. Alors
moi je mange du foie gras et j'aime ça.
Très bien.
Suis plutôt de votre côté aussi, mais c'est un sujet très sensible pour Laetitia. Donc on va pas se fâcher avec Laetitia. Manger du foie gras, il y a un risque ou pas?
Aucun risque. Et manger des chapons, manger des volailles.
Oui, je mange un poulet qui est contaminé. Le fait de le cuire,
non, vous n'avez aucun risque parce que quand il y a la déclaration de la maladie, obligatoirement, ces animaux n'arriveront pas dans le commerce.
Mais même s'il y avait, j'imagine, moi je sais pas, moi j'ai vraiment pas de chance. j'imagine qu'en cuisant, il y a aucun risque.
De toute façon, il n'y a pas de risque alimentaire.
Voilà,
les seuls risques sont respectés respiratoire quand vous avez vraiment un contact très étroit.
Très,
parce qu'il
très
faut,
étroit,
que, faut que le virus aille dans les alvéoles pulmonaires pour être contaminé.
Donc il faut que je fasse du bouche à bouche à un poulet.
Faut dormir dans le poulailler contaminé.
C'était surtout les éleveurs de coqs de combat qui aspiraient les narines de leurs volailles pour qu'elles respirent mieux avant le combat. Il y a eu beaucoup d'éleveurs qui ont été contaminés comme ça.
Oh là,
il faut, il faut quand même le chercher. Là.
Exactement.
Bon, et aucun risque pour les chiens de chasse ou les chiens.
Le chien, il n'y a jamais eu d'influenza aviaire chez le chien. Il y a eu ces cas exceptionnels chez le chat, mais avec la souche asiatique à Rügen, en Europe, c'est tout.
Oui, donc bon. Voilà, on est rassurés.
Ah ben, il faut être rassuré, il faut manger des volailles. Les volailles, c'est festif quand même.
Oui, c'est vrai.
Elle va le dire, il faut manger du foie gras. Il faut manger du foie gras. Je vais le dire.
Attention. Bon, en tout cas, on est rassurés concernant la grippe aviaire. Hein, Laetitia.
On est rassurés. Merci.
Parfait. Merci beaucoup, Jeanne Brugère-Picot. Merci.
Merci d'être venu.
8h moins le quart, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est les animaux. Dans un instant, Laetitia, dégustation de foie gras dans ce studio. Ça vous va?
Non? Ça peut pas se faire, ça, non.
C'est pas grave, on n'en mange pas plus, nous. On va évoquer, la France a un incroyable talent avec les gagnants de cette saison. Puisqu'il faut savoir que c'est un chien et sa maîtresse qui ont remporté ce concours. On va en parler dans un instant, donc, avec les principaux intéressés.
Juliette et Charlie.
3216, animaux@rmc.fr. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h47, c'est RMC et c'est le week-end des experts, c'est les animaux. Laetitia, il y a quelques jours, sur M6, il s'est passé ça.
Eh bien, je vous l'annonce, le 10e grand gagnant de la France, un incroyable talent, est Juliette et Charlie.
Et oui, Juliette et Charlie.
J'ai les poils qui se dressent là sur mon bras.
C'était émouvant.
Et Juliette est tombée dans les bras de Charlie. C'est un peu ça, enfin dans les pattes, hein, mais bon. Et nous avons avec
Juliette. Bonjour Juliette.
Bonjour, merci. Merci infiniment d'être avec nous. Bravo pour vous et votre chien Charlie. C'est un croisé setter. Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, vous êtes les grands vainqueurs de la 10e édition, on l'a vu, de la France, un incroyable talent. Quand vous êtes tombé dans les pattes, on va dire, de Charlie, vous avez pensé à quoi à cet instant précis là? On vient de le revivre.
Je sais même pas. Ah, de réentendre le son et tout, ça me fait trop bizarre, c'est horrible. Je pensais qu'à pleurer, alors je crois que je pensais à rien.
Mais moi, je pleurais avec vous, c'était vraiment une émotion. Mais c'est vrai, j'étais à chaudes larmes, je pleurais.
C'est vrai?
Mais Juliette était au sol avec Charlie dans les bras.
C'est des moments forts, parce que ça fait combien de temps que ça dure, Juliette?
Que l'émission dure?
Oui, voilà, le concours.
Ça fait un mois et demi.
Voilà, donc il y a une pression. Enfin, je veux dire, voilà, c'est aussi une délivrance, quoi.
Alors, oui, c'est ça. Rappelons un peu l'histoire de Charlie pour ceux qui n'ont pas écouté, parce qu'on vous a eu il y a deux semaines au téléphone pour nous. Vous étiez en demi-finale. Hein. Alors, vous l'avez sauvé, Charlie. C'est un croisé setter que vous avez sauvé dans un refuge alors qu'il avait 2 ans, et vous avez décidé de lui apprendre le dog dancing. Alors, le dog dancing, c'est une chorégraphie en musique, et on l'a vu. Vous avez fait un nouveau numéro là pour la finale. Alors, je sais que vous m'avez dit que c'était pas gagné avec les setters, qui sont plus des chiens de chasse que des chiens de dog dancing. Et votre grande crainte quand vous arriviez sur le plateau, c'est que il n'y ait pas une odeur sur le plateau. C'est ça?
C'est ça. Qui sont un truc et qui partent pas dans le public ou dans les coulisses ou qui se baladent pas tout simplement sur la scène en faisant des cercles en se mettant en arrêt tous les 2 mètres.
Et vous avez des candidats qui sont sympas quand même, parce que moi j'aurais été candidat face à vous, j'aurais mis des bouts de saucisson partout sur la scène. Hein.
C'est méchant quand même.
C'est de la compétition. Alors, dans le numéro que vous avez me présenté en finale, vous sautez à la corde avec Charlie. Mais vous avez mis combien de temps à lui apprendre?
En fait, de toute façon, j'ai eu qu'une semaine pour préparer la chorégraphie. Je pensais qu'on n'allait pas y arriver.
Oui.
J'ai fait un premier essai dans mon salon, voir si c'était possible d'envisager sauter à la corde. Et c'était n'importe quoi. Donc je me suis dit, bon, j'ai demandé à mes amis, j'aurais dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le travaille quand même à fond pendant une semaine et que je vois s'il y arrive la semaine prochaine et en même temps je prévois quelque chose d'autre si ça marche pas? Ou est-ce que j'abandonne direct et je fais du saut dans les cerceaux ou des trucs comme ça? Et en fait, bah, il a réussi au bout de deux séances, quoi.
Au bout de deux séances, il a réussi à sauter à la corde avec vous.
C'est
mais c'est incroyable. C'est
il
incroyable.
Est chien.
Ah ouais, non mais c'est il vous tape dans la main, il fait un peu aussi de l'agility là, il saute sur des enfin pendant le numéro, vous lui avez aussi appris en une semaine ça?
Non, mais ça il fait de l'agility déjà, donc c'est en fait c'est surtout la production qui avait trouvé des plots et qui s'est dit on va les mettre, donc j'aurais dit bon on va s'en servir quoi. Donc on va sauter par-dessus.
Bon, il en a fait dober 2-3, mais bon, ça fait rien, ça.
Est-ce que... Mais ils étaient pas très bien écartés, ouais.
Oui, je pense aussi. Est-ce que le Kamel Wally, c'était le un des membres du jury, bon, on sait qu'il est chorégraphe, qu'il est danseur, est-ce qu'il vous a donné des cours de danse pour le numéro, il vous en a promis?
Pas du tout. Non, mais pour les préparations, quand on arrivait deux jours avant sur le plateau, et en fait, il y avait une chorégraphe qui travaillait avec lui, qui nous aidait et qui nous donnait des petits conseils, donc c'était super.
Ah oui, parce que c'était vraiment une mise en scène. Là, c'était incroyable. Hein. Enfin, le thème, c'était l'écolière, quoi, avec son chien.
Ouais, voilà.
Alors, juste une chose. Vous savez quoi, Juliette, on a un invité surprise maintenant sur RMC. Et il est avec nous au téléphone. Juliette, à votre avis, qui on peut avoir avec nous au téléphone?
Je sais pas, ça me fait peur.
Mais il faut pas avoir peur, c'est Alex Good. Salut Alex. Ah,
bonjour, salut.
Bonjour.
Salut Juliette. Salut. Ça va, tout va bien?
Tout va bien.
Bon, alors Alex.
Comment ça se passe depuis mardi soir? Je me demande comment est-ce qu'elle va depuis mardi soir et comment va Charlie surtout.
Bah, Charlie, il dort et moi, j'évite un peu les réseaux sociaux.
Ah bah ouais, là, il y a une déferlante quand même, là.
Ouais.
Ah oui. Après, tu sais, c'est les gens ne sont jamais contents. Donc, hein, voilà.
Non, mais là, il faut...
ce que tu as fait, c'est génial. C'est super pour toi, c'est super pour Charlie. Votre histoire, elle était super et je pense que ça a ému tout le monde. Et voilà, c'est génial.
Alex, est-ce que vous sentiez que Juliette allait gagner? C'était serré cette année?
J'aime tellement quand tu me vois. Alors...
Oui, parce qu'elles sont des grands amis quand même, François et Alex. Ça m'étonne. On peut se tutoyer quand même.
Alors on va se tutoyer, Alex. Est-ce que tu sentais que Juliette allait gagner? C'était serré cette année ou pas?
Écoute, honnêtement, ça a été très serré entre les deux premiers. Voilà, à l'arrivée, les votes ont été très serrés entre les deux premiers, entre Juliette et Maestro. Voilà, mais qui était quand même loin devant tout le monde, parce que je pense que, si tu veux, dans cette émission, ce qui compte quand même beaucoup, beaucoup, c'est les histoires, et c'est ce qu'ont vécu les gens. Tu vois, et dans le cas de Maestro, comme dans le cas de Juliette, on a affaire à des gens vrais, tu vois, où c'est une histoire humaine, et tu vois, Maestro n'avait jamais chanté, puis s'est mis à chanter il y a un an, et voilà, incroyable. Juliette, elle a récupéré Charlie à la SPA à Montpellier il y a quelques années. Il s'est créé une espèce d'histoire incroyable. Et quand tu les vois tous les deux, tu sais, t'as toujours le danger. Le dressage d'animaux, quand c'est du dressage, t'as toujours ce mot dressage qui peut toujours te faire dire que tiens, l'animal n'est pas heureux ou qu'il y a toujours un truc bizarre. Dans leur cas, c'est pas du tout le cas. C'est une espèce d'osmose. C'est comme si t'es deux super potes qui sont ensemble depuis le début. Et je pense que ça, c'est touchant. Ce truc où tu vois que Charlie, en fait, il est content de s'amuser avec Juliette et que Juliette est aussi contente et très heureuse de s'amuser avec Charlie. Je pense que c'est ça qui a fait que ça a plu à autant de gens. Tu vois, ils avaient déjà été en demi-finale aussi, premier des votes du public, quand même, tous les deux. Donc je pense pas que Juliette s'attendait du tout, franchement, parce que toute la journée, elle était plutôt relaxe, plutôt cool, en disant, ouais, de toute façon, moi, je viens m'amuser avec Charlie, c'est cool.
Voilà.
Et puis au fur et à mesure des votes, tu sais, je sentais que tu te tendais un petit peu. Tu sais, quand on était là à dire, alors le 10e, c'est ça, le 9e, c'est ça, le 8e, c'est ça, je disais, mais c'est quand mon tour?
C'est vrai, Juliette, croyez pas ou quoi?
Non, mais en fait, dans les loges, il y avait toutes mes amies qui étaient là, allez, Juliette, et tout. Je leur disais, non, mais faut pas se leurrer, les filles, on gagnera pas, mais c'est pas grave, on était en finale. Et pendant que t'appelais les gens, je me disais, mais. Alors j'avais envie de me pencher sur la feuille et de dire, mais t'as oublié mon nom, ou il était pas encore pris, c'est pas possible, il est pas passé encore mon nom, t'es sûr? Bon bah ok, alors j'appelais les gens, je me disais, mais c'est pas possible, mais pourquoi on passe après? C'est pas possible.
Alors tout le monde...
Et à la fin, vous n'étiez plus que deux, c'était cool. C'était rigolo,
oui.
On n'était plus que deux là, tous les deux.
Ouais, c'est vraiment
le moment
sympa.
De tension là, c'est...
Oui,
franchement,
en plus...
Charlie était détendu pour le coup.
Oui,
c'est vrai, Charlie, on n'avait rien à faire.
Oh, mais c'est vrai, Charlie, il regardait la caméra en disant, mais c'est quoi cette histoire? C'est des fous, les humains.
Ouais, mais puis moi, j'ai l'habitude de gérer ce succès. Il n'y a pas de problème.
Pas impressionné. Juliette, ce qu'on vous demande, c'est, mais je pense que tout le monde vous a demandé la question, qu'est-ce que vous allez faire de votre prix, 100 000 euros?
Alors déjà, j'ai plus d'envie. Hein.
Je crois que vous avez... Oui, vous l'avez partagé, voilà.
Ah, pour le moment, je n'ai pas partagé, j'ai rien reçu. Donc, voilà.
Non, mais c'est Alex qui va envoyer le chèque.
C'est moi qui vais relâcher Las Vegas. C'est un peu compliqué, mais c'est moi qui vais occuper.
C'est pour ça qu'il est à Las Vegas, Alex, justement. Il a le chèque.
Il faut souligner aussi. Je crois que c'est la première fois que ça arrive depuis que je fais l'émission. En tout cas, j'en suis même quasiment sûr. C'est la première fois que la gagnante partage avec le deuxième. Tu vois, qui est encore une fois la preuve que, voilà, que Juliette, elle est. C'est vraiment voilà, quelqu'un qui veut l'aventure pour la vivre aussi, pour montrer ce qu'elle a vécu avec Charlie et pour donner aussi envie à plein de gens. J'espère que toi, l'émission a fait qu'il y a plein de gens qui se sont dit moi je peux aussi aller à un refuge
et
récupérer un petit chien. Voilà, c'est ça qui était super dans cette histoire, tu vois, et te dire deux personnes humaines, voilà, enfin une personne et un chien, mais c'est comme tu utilises deux. Quoi.
Merci Alex.
C'est ça qui était génial.
Alex, merci.
On est ravis.
Merci beaucoup.
Écoute, on se retrouve.
Je sais pas comment Charlie va aller à Montréal. Je sais pas comment ça va se passer en avion. Fais un truc pour qu'il soit avec toi dans l'avion, le petit pépère. Hein.
D'accord.
Ça va être drôle. Et puis écoute, on se revoit à bientôt de toute façon.
À bientôt Alex et à l'année prochaine sur M6. Donc. Salut, à bientôt. Merci Juliette et encore bravo aussi.
Merci
Juliette.
À très bientôt.
Bravo et puis on va vous suivre là, on va voir un petit peu comment vous évoluez.
Comment ça va évoluer.
Et je sais que vous voulez faire de cette passion votre métier puisque vous voulez être dresseuse d'animaux. Ça c'est bien ça, c'est une bonne idée.
C'est cool. Pour terminer ce rendez-vous animaux sur RMC, on va parler de notre vidéo LOLCAT. Vous le savez, chaque dimanche dans ce rendez-vous animaux, on vous propose une petite vidéo sympathique, rigolote, qu'on a pu retrouver sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. Et cette semaine, c'est, vous savez quoi Laetitia ? Une vidéo avec des chats et des lapins. Des sapins, plus précisément.
Oui,
parce que les chats et les lapins, c'est pas bon. En général, ça se termine mal.
C'est pas bon un lapin non plus, à manger non plus. Donc, oui, c'est un florilège. Alors, c'est un classique. Mais là, comme on a commencé l'émission avec le chat et le sapin, eh ben, il fallait qu'on finisse l'émission avec les chats et les sapins, avec les meilleures vidéos de chats qui détruisent des sapins.
Et c'est très drôle. Bon, maintenant, on joue. Et alors, qui va remporter ce drone? Ce drone avec caméra intégrée, c'est Mathieu qui habite Saint-Éloi-de-J dans le Cher. Il a joué avec nous par SMS, Laetitia. Et c'est lui qui va s'amuser avec son petit drone, comme ça, pour faire des jolis plans avec la caméra. Bravo. Prochain jeu, ce sera dans une heure sur RMC. C'est le Grand Noël RMC. À tout à l'heure.